vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.
Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Et notre cher collègue Nesrine Dahmoun reçoit ce matin Monsieur Abdelkrim Harzallah, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonjour Nesrine, bonjour Monsieur.
Bonjour Soraya Zantar, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Abdelkrim Harzallah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. On vous reçoit à l'occasion de la rentrée universitaire 2025 ce lundi. 2 millions d'étudiants répartis à travers les différents établissements universitaires et centres de recherche, dont plus de 330 000 nouveaux inscrits qui font leur entrée aujourd'hui. C'est énorme. Alors, est-ce que les capacités d'accueil sont au rendez-vous ce lundi? Sacrée question pour commencer.
Oui. Merci beaucoup et je vous remercie de l'invitation.
Merci.
Et
vous
permettez d'envoyer enfin un vœu de succès justement pour l'ensemble de nos étudiants de la part de Monsieur le Ministre. Et nos étudiants, que, comme vous le savez, qui sont au nombre de 1 800 000, donc comme vous l'avez signalé, 340 000 nouveaux inscrits. Et cela permet justement à l'université, à l'enseignement supérieur algérien, d'être tout le temps au rendez-vous du développement de l'économie algérienne, ne serait-ce que par la fourniture du nombre de cadres nécessaires justement au développement économique.
Alors, c'est une rentrée universitaire avec de nouvelles offres de formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur a insisté tout cet été sur le fait que les formations qui sont offertes aux étudiants doivent être orientées principalement sur la demande du marché. Parlez-nous, Monsieur Hazallah, de ces nouvelles filières et spécialités qui seront lancées cette année, en particulier pour les étudiants de première année et encore une fois, encore plus particulièrement dans le domaine scientifique et technique.
Alors, il y a une série justement de nouveautés cette année. Et chaque année, justement, l'enseignement supérieur, elle monte en puissance. Je vais peut-être diviser cela en deux parties.
Bien sûr.
Enfin, pour les premières années, essentiellement pour les premières années, il y a 231 de licences ouvertes. Et parmi justement ces licences, il y a une nouveauté, c'est que 14 parcours de formation sont orientés vers les titulaires de baccalauréat littéraire.
D'accord.
Bon, avec une forte connotation scientifique, ces filières. Et cela permet justement aux étudiants de bac littéraire d'avoir d'autres horizons, justement, que les débouchés littéraires. Parmi ces licences, nous avons le trading, le marketing des systèmes d'information des hôpitaux, la gestion des aéroports, et aussi quelque chose qui me semble important, c'est l'histoire liée au big data. Bon, l'histoire, c'est des grosses masses de données, c'est de très grandes masses de données, et le big data, justement, il est fait pour ça. Il s'occupe justement des grandes masses de données. Donc c'est une ouverture vers cette population, comme elle peut bien entendu continuer, si elle le désire, à suivre les aspects littéraires. Maintenant, au niveau du master, peut-être qu'on va passer. Mais c'est nouveau.
C'est les premières années.
Pour les masters, nous avons ouvert 275 masters. Parmi ces masters, il y a deux qui sont qui méritent d'être signalés, ne serait-ce que pour les missions.
Oui.
C'est parce que nous avons remarqué qu'il y a des difficultés au niveau de la négoce, au niveau des entreprises et des institutions algériennes. Uh-huh. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert justement un master dédié aux négociations justement des contrats, des big contrats internationaux et la gestion des crises internationales. Uh-huh. C'est une nouvelle formation qui est prise en charge par une école d'ingénieurs, et il y a aussi la transition énergétique qui est très importante par ailleurs. 141 diplômes, filières d'ingénieurs, qui sont ouverts, 141. Mm-hmm. Les doubles licences, nous avons 28, c'est parce que nous avons ouvert 4. Les masters à la carte, c'est pour la pharmacie. Bon, à ce moment-là, ça va être à la carte.
Oui.
Voilà, et nous avons revisé les programmes. Nous avons introduit des matières d'IA, d'intelligence artificielle, de la programmation informatique, les logiciels libres, etc. Bon, tout ça, on les a introduits dans l'enseignement.
Alors, c'est ça, en fait, dont je voulais savoir. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur en parlait déjà au mois de juillet. Les programmes seront révisés pour intégrer, comme vous le disiez, les modules dans l'intelligence artificielle. Quels sont les autres modules qui ont été intégrés aux diverses formations de l'enseignement supérieur?
Oui, enfin, nous avons fait l'intelligence artificielle, ce qui est,
bon, c'est vraiment, vraiment
le capital maintenant.
Absolument.
Voilà,
bon, quelque chose
apparemment qu'on ne peut pas éviter. Il y a la programmation informatique, les logiciels libres et les reverse engineering. Les reverse engineering, c'est aller justement au fond justement de la technologie dans le but de reconstruire cette technologie sous la forme sous la forme qui correspond justement à notre réalité. Et c'est ce qui se fait justement à travers le monde. C'est la reverse engineering. Mais ce qui est important, c'est que ces matières ne sont pas uniquement orientées que vers les aspects scientifiques et techniques.
C'est ça, c'est aussi, l'impression de ça, oui.
Les SHS, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, ne sont pas du tout mises à l'écart. Et voilà, et ces matières liées à la programmation informatique, les statistiques, tout cela concerne aussi bien les sciences scientifiques
et
les sciences humaines. Voilà.
En fait, on est très loin des anciens schémas de formation traditionnels. Ouais. On a l'impression que l'enseignement supérieur est complètement en adéquation avec les exigences du marché actuel.
Oui. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas dans la dans la stagnation, on est dans l'amélioration continue.
Absolument.
Là, on est c'est ce qu'on appelle la boucle de Deming. On suit nous la, c'est-à-dire on fixe des objectifs, on cherche à les réaliser, on les vérifie et puis on améliore. Et voilà, et chaque année.
Ça s'améliore. Et d'ailleurs, vous m'en parliez tout à l'heure et c'était une information que je n'avais pas, c'est qu'il y a actuellement des contrats de recrutement avec les écoles de Sidi Abdallah, notamment en IA et en mathématiques pour les diplômés. C'est-à-dire que dès qu'ils finissent leurs études, ils sont directement recrutés. Expliquez-moi.
Absolument. Mm-hmm. C'est que au niveau de Sidi Abdallah, il y a 5 écoles.
Oui.
Et les 2 premières écoles qui ont commencé, donc ils sont en avance, il y aura une promotion au mois de juin.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Cette promotion sera totalement prise en charge, justement, par le secteur socio-économique, les institutions étatiques, etc.
C'est des entreprises qui les recrutent directement.
C'est un recrutement à part entière, ce qu'on appelle les CDI, contrat indéterminé. Hein.
Est-ce que c'est des entreprises privées? Est-ce que c'est des entreprises publiques?
Pour le moment, c'est public et institution. Le privé, pas encore, mais ça va venir, puisque c'est la première année. Voilà, c'est la roue de Deming, c'est-à-dire on améliore chaque année, on améliore nos affaires.
Alors, une autre question, est-ce que c'est des entreprises qui sont spécialisées dans les TIC ou c'est des entreprises qui sont dans d'autres secteurs un peu plus larges?
Nous avons les MPTIC, par exemple, qui sont une grande spécialité dans tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, programmation informatique, etc. Oui. Nous avons l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, et nous avons les centres, les centres de recherche affiliés au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ces centres de recherche, ils brassent toutes les disciplines qui existent actuellement, de l'intelligence artificielle en passant par la mécanique, l'électronique, etc., etc.
Alors, une autre information que vous m'aviez donnée, c'est qu'il y a actuellement également une autre nouveauté, c'est les contrats de parrainage pour les étudiants des grandes écoles. Expliquez-nous, c'est-à-dire en quoi consiste ce contrat de parrainage?
Oui, c'est un contrat, ça rentre toujours dans le cadre de la fidélisation de nos lauréats.
Oui.
Parce que nos lauréats nous demandent justement que de rester. Si les conditions sont réunies. Voilà. Et nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, bien que cela ne soit pas uniquement du ressort de l'enseignement supérieur. C'est du ressort d'un ensemble, de l'ensemble.
C'est multisectoriel.
C'est multisectoriel, mais l'enseignement supérieur a pris sa part et elle réalise sa part. Mm-hmm. Comment elle réalise? C'est toujours en contactant des entreprises, pour le moins toujours publiques, les institutions étatiques, pour que des masters des masters qui ont une forte résonance soient recrutés. Bon, cette année, c'est un master à l'USTHB de Belzoar.
Très bien. Donc, bon, oui.
Voilà. Et maintenant, nous avons une difficulté au niveau des textes, c'est que le passage de l'école supérieure à l'école, à la grande école.
D'accord.
Dès que ce texte il est réalisé, toute grande école, lorsqu'elle recrute des étudiants, c'est automatiquement avec un contrat de parrainage et de fidélisation.
Alors que je comprenne bien, parce que j'ai l'impression de pas très bien comprendre et je vous l'avoue, ce contrat de parrainage, c'est l'université qui parraine ou est-ce que c'est les entreprises qui parrainent ?
Ah, et là il y a deux parties.
Voilà.
C'est-à-dire que l'étudiant, il est boursier pour à peu près 10 000 dinars dans les grandes écoles.
D'accord.
Qui vont être créées.
Il n'a pas encore terminé son cursus.
Voilà
ce que je voulais savoir.
Une entreprise, elle se propose. Mmh. Nous, on va chercher l'entreprise, l'institution. Bon, on va faire notre travail, il n'y a pas de problème.
Oui.
Bon, il y aura, une fois que l'étudiant rentre, il signe un contrat.
Oui.
Et la prise en charge, je crois que c'est ça votre question. Donc, il y aura la bourse du ministère de l'Enseignement supérieur et un prêt salaire versé justement par l'entreprise qui prend en charge l'étudiant.
Alors en fait, là, vous répondez à une problématique réelle qui existait auparavant, à savoir qu'il y ait une véritable rupture et une instabilité chez les diplômés lorsqu'ils intègrent le monde du travail, où ils sont complètement perdus, puisque la formation ne les prépare pas à ce monde du travail entre la théorie et la pratique.
Absolument.
Là, on a l'impression qu'il y a une prise en charge. Est-ce que je me trompe ?
Absolument, absolument. Là, vous avez parfaitement raison. C'est que le fin fond du problème, justement, au niveau de l'enseignement supérieur, qui existait auparavant, on cherche justement à le résoudre pour que le ministère, que l'enseignement supérieur soit au plus près, justement, de l'entreprise et, au niveau de l'entreprise et de toute autre organisation, bien entendu.
Et surtout aux étudiants, aux licenciés. Alors, on va parler d'une autre plateforme qui est tout aussi importante, puisque c'est vraiment, on est dans le principe du tout numérique. Les inscriptions se sont faites par Internet.
On est passé en numérique. Il y a toujours un manque au niveau de la gestion des établissements universitaires, du point de vue numérique, bien entendu. Mais ça viendra. C'est comme un bateau. Avant de sortir justement du port, là, c'est tout un travail qu'il faut faire. Et ça demande du temps. Voilà. Mais au niveau de l'administration centrale, là, on est à 100%.
Vous voulez dire qu'il y a encore certaines universités qui ne sont pas complètement connectées au numérique ?
Ils sont connectés, mais c'est parce qu'on a fait, avec la nomination de Monsieur le ministre professeur Kamel Badari, nous avons élaboré un SDN, c'est ce qu'on appelle le schéma des directeurs du numérique.
Très bien.
Depuis novembre 2022. Voilà, et nous sommes en train de le suivre.
Oui.
C'est des feuilles de route, un ensemble de feuilles de route. Dans la partie université, établissement universitaire, mais pas école, mais surtout université, de par la masse très importante, là, il y a quelques carences. Il y a quelques carences nous sommes en train de prendre en charge. Tout à fait normal.
Alors, une dernière question avant de vous retrouver après le sommaire, c'est qu'il y a également une plateforme qui s'appelle Study in Algeria, c'est pour les étrangers. Et c'est la première année que cette plateforme a été lancée. Il y a déjà des inscrits.
Qui a été lancé. Enfin, c'est en parallèle des bourses, on appelle la plateforme des bourses qui sont offertes par Monsieur le Président de la République. Pour cette année, c'est 8000 bourses. On a ouvert Study in Algeria, ou bien étudier en Algérie, à titre privé, pour les étudiants privés, qui souhaitent justement suivre par exemple l'intelligence artificielle. Et là, nous avons reçu un certain nombre de demandes, et ce sont des études payantes et en devise.
Alors, on va y revenir dans un instant, juste après le sommaire.
Très bien.
Sous le parrainage de Monsieur Leroy.
8h32, minutes précisément sur les ondes d'Algérie 3. On reprend avec vous, Monsieur Abdelkrim Harzallah. Vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On vous reçoit donc à l'occasion de la rentrée universitaire qui a commencé donc ce matin, ce lundi. Et on parlait donc d'une plateforme importante qui a été lancée cette année, à savoir Study in Algeria, qui est ouverte aux étrangers. C'est une plateforme de bourse privée. Alors, si je ne me trompe pas, pas. Et il y a déjà plus de 700 demandes d'accès à des études en Algérie. Expliquez-nous, comme vous le disiez tout à l'heure, le principe de cette plateforme et quelles sont les nationalités, quels sont les étudiants qui sont intéressés par les études en Algérie.
Oui, effectivement, vous avez raison. Parallèlement au nombre de bourses offertes chaque année par Monsieur le Président de la République à la direction justement de pays africains.
Oui.
Cette année, nous avons voulu, en plus justement de cette bourse qui sont au nombre de 8000 cette année.
Oui.
Donc ça, c'est bon, entre le ministère des Affaires étrangères et bon, et les pays africains.
Oui.
Bon, nous avons ouvert justement une plateforme pour des inscriptions libres.
À titre bon, privé.
À titre privé, enfin, carrément privé. C'est-à-dire, bon, bah, privé, bon, bah, qui s'entend, bon, bah, que quelqu'un qui est à l'extérieur, bon, enfin, un étudiant bon, international, qui veut poursuivre ses études en Algérie, dans un établissement, pour nous, public, puisque nous avons aussi les établissements privés.
Absolument.
Là, c'est, bon, ça, c'est leur affaire. Bon, nous,
on
s'occupe justement
du public.
Du public.
Absolument.
Voilà. Donc, pour cette plateforme, nous l'avons ouverte et nous avons donc mis dedans tout ce qui peut concerner toute information susceptible d'aider justement les internationaux à s'inscrire. Et voilà. Et pour cette année, nous avons reçu, enfin, c'est pas pour cette année puisque c'est la première année.
Oui.
Donc, nous avons reçu 700 demandes. Voilà. Et le nombre, il est, il voit justement vers l'accroissement dans la mesure où on table sur un millier de demandes. Une fois que c'est fait, justement, il y aura l'étude des visas avec le ministère des Affaires étrangères, etc. Et on commencera le travail.
Très bien. Alors, on va parler aussi d'un autre point qui est tout aussi important, à savoir la généralisation progressive de l'usage de l'anglais dans l'enseignement supérieur qui se poursuit. Et à partir de cette année, eh bien, les étudiants de première année en sciences médicales vont suivre l'ensemble de leurs cours en anglais. Ils auront également la possibilité de s'inscrire parallèlement à une licence d'anglais médical. Tout ça, c'est très nouveau, hein.
Oui.
Alors, comment on va s'organiser cette généralisation et puis le fait de suivre tout un cursus universitaire en anglais.
Oui, enfin, concernant les premières années, par exemple, bon, il y a une plateforme d'apprentissage de langue anglaise qui est ouverte à partir du mois de juillet.
D'accord.
Pour les nouveaux étudiants. Donc, en ce qui concerne les étudiants, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Pour les enseignants, voilà, le face-à-face, dans une première étape, il est difficile.
Bon, c'est un début.
Mais on va progressivement, parce qu'il est impossible d'envisager que dès le départ, il y aura un face-à-face à 100% anglais.
Vous voulez dire une fluidité dans l'échange?
Dans l'échange, il y aura tout le temps un panachage entre français, anglais, arabe.
Arabe.
Mais ça viendra. Mais pour les étudiants, au moins, justement, ils auront les polycopes qui seront entièrement en anglais et les examens en anglais.
Très bien.
Au moins, ils vont avoir la compréhension de la langue. Maintenant, il reste le speaking pour les étudiants aussi. Là, il faudrait qu'il y ait un environnement pour cela, mais cela viendra avec le temps.
Il y a des cours en anglais en parallèle.
C'est cette fameuse plateforme.
Voilà.
Pour les premières années, mais il y aura aussi des cours d'anglais dans le cursus des médecins, etc.
C'est du e-learning en anglais ou c'est du présentiel en anglais?
Pour la plateforme, c'est du e-learning. Mm-hmm. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça va être du présentiel.
Du présentiel.
Mais comme ils peuvent continuer aussi dans le e-learning.
Ça veut dire que les modules vont se faire en anglais?
En anglais, oui, en anglais.
D'accord.
En anglais. Maintenant, il y a la licence.
Oui.
La licence que vous avez citée, c'est la licence d'anglais médical.
Absolument.
Qui est ouverte pour ceux et celles qui voudraient avoir un double diplôme.
Pour ceux qui ont, par exemple, suivi une filière technique et même pour les littéraires.
Ça, c'est pour la médecine. Maintenant, pour les scientifiques, les sciences technologiques et les littéraires, nous sommes à la troisième année actuellement. C'est-à-dire que la promotion qui va sortir au mois de juin de licencié aura fait toutes ses études en langue anglaise.
C'est vraiment nouveau pour nous, c'est
révolutionnaire. Ah oui. Peut-être qu'il y a, même pour nous, peut-être il y a une carence au niveau de la communication. Peut-être qu'on ne communique pas assez.
Vous êtes en train de le faire, en fait.
Voilà, c'est pas de la communication, c'est ça. Plus on communique et plus il y a un besoin de communiquer. C'est comme cela. Oui. Maintenant, pour les sciences, les humaines, ils ne sont pas du tout, c'est-à-dire qu'on les a pas oubliés, on se concerne la langue. Par exemple, pour le journalisme, les STAPS et les CXE. Les CXE, ce sont les sciences économiques de gestion et de commerce. Sont aussi à leur troisième année d'enseignement en anglais. Au mois de juin, ils auront terminé une licence entièrement
en anglais.
En anglais.
Et comment font les enseignants? Comment ils ont été préparés à présenter leur cours en anglais, à préparer leur cours en anglais? Est-ce qu'il y a eu une préparation parallèle?
Ah oui, il y a un suivi de la part de la direction en général. Oui. Vraiment de proximité, un suivi de proximité où on allait justement presque université pour université pour s'enquérir de la situation exacte qui prévaut en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais. Il faut dire aussi que, et là peut-être que c'est un point qui n'est pas connu du public, c'est que le doctorant, quand il rentre pour préparer un doctorat, il passe justement par quatre modules.
À savoir
la pédagogie, comment enseigner, la philosophie, qui est très importante pour apprendre à raisonner, à apprendre aux autres à raisonner, troisièmement, l'anglais. Mmh. C'est-à-dire, lorsqu'il termine sa première année de doctorat, il aura fait justement ces modules et il maîtrise l'anglais. Donc, avec la nouvelle génération, puisque celle-ci, elle a commencé en 77. Le corona, il nous a perturbé. Donc, on a repris maintenant. Oui. Donc, dans 2-3 ans, nous aurons des enseignements parfaitement trilingues. Arabe, français, anglais.
Anglais, c'est vraiment révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est la transition toute faite pour parler du recrutement au niveau de l'université. Alors, pour cette année, il y a eu, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le recrutement de plus de 4100 enseignants, au titre de l'exercice budgétaire 2025. Alors, comment s'est fait ce recrutement et comment ces enseignants ont été répartis?
Le recrutement, il est en cours. C'est-à-dire que nous avons obtenu les postes.
Très bien. Vous avez les postes budgétaires.
La plateforme, elle va relayer justement le travail administratif. Mm-hmm. Où tout Algérien qui remplit les conditions, il peut s'inscrire pour être recruté en tant qu'enseignant maître assistant.
Très bien.
La plateforme, elle va démarrer incessamment.
Vous pouvez m'expliquer. Donc, le poste budgétaire existe et le recrutement est en cours.
Est en cours.
Très bien.
Donc, ça va se faire, peut-être ça va être finalisé d'ici le mois de novembre.
Oh, d'accord.
Le temps de s'inscrire, puisqu'il y aura des entretiens avec les candidats, etc. Ça va demander quand même un mois de novembre.
Et les conditions de recrutement sont toujours les mêmes?
Les mêmes, oui. C'est doctorat et ce doctorat se positionner, candidater pour une filière qui a été ouverte, puisque ce n'est pas toutes les filières qui sont ouvertes. C'est selon les besoins.
Et en parlant de selon les besoins, c'est quoi l'objectif pour le ministère de l'Enseignement supérieur? C'est combien d'enseignants par étudiant? Ou c'est surtout, pour le moment, répondre à un manque? Les objectifs
sont... le ratio étudiant. Peut-être là, il faut faire la part des choses. Oui. Nous avons les sciences humaines et nous avons tout ce qui est technologie.
Oui.
Sans vouloir faire justement de séparation, mais la séparation, elle s'impose d'elle-même. Oui. C'est qu'au niveau des sciences humaines, le nombre, il était très important.
D'accord.
Mais cette année, justement, ça a changé. Puisque les nouveaux bacheliers qui sont au nombre de 340 000, 65 pour eux, ont été orientés vers les filières scientifiques. Chose qui n'existait pas auparavant.
Oui.
C'est pour cela que jusqu'à présent, nous avons des filières, un nombre très important d'étudiants dans les sciences humaines. Et c'est pour cela que le ratio, il est assez élevé. Il est à peu près autour de 1,29. Un enseignant pour 29 étudiants, ce qui n'est pas à catastrophique, mais bon, c'est bon, je dirais même acceptable. Et dans les sciences, il est de 1 pour 20-21. Bon, enfin, donc on se rapproche de la norme internationale pour les sciences.
Qui est, c'est quoi la norme internationale et
bon, enfin, bon, on peut aller jusqu'à 18. Bon, enfin, et là, ça dépend un peu de la culture et des traditions de chaque pays. Peut-être que nous, on accepte que dans une classe bon, ben, qui est 30, peut-être que d'autres pays n'acceptent pas. Voilà, oui. Ça dépend. Et l'inverse. Hein. Donc, la, pour, enfin, les
c'est
normes
culturel,
internationales,
c'est les normes.
Voilà, c'est purement culturel. Mais disons, une moyenne, c'est de 1,17, 1,18. C'est un enseignant pour 17 enseignants.
On va rester étudiants. Pardon. On va rester toujours avec les enseignants puisque il y a encore une autre annonce, c'est la révision de la formation au niveau des ENS, à savoir de l'ENS, à savoir l'école nationale supérieure, normale supérieure, pardon, et de ses annexes. Alors, en quoi consiste cette réforme ? En quoi consiste cette réforme de l'ENS ?
Oui, enfin, l'ENS, donc c'est un certain nombre d'établissements, d'écoles. Mmh. Où la demande est extrêmement importante. La demande est allée sur le temps.
D'accord.
Bon, disons dans les 4-5 années, elle va être très importante, puisque comme vous le savez, le taux de natalité, il est aussi important.
Il est grandissant.
Et plus le taux de natalité est important, et plus l'éducation est demandeuse justement de moyens et de ressources. Mmh. Bon, enfin, bon, l'enseignement supérieur, justement, elle vient au secours de l'éducation nationale en lui formant les cadres nécessaires, c'est-à-dire les enseignants nécessaires.
Oui.
Mais le nombre d'écoles actuelles, ce nombre s'avère insuffisant. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle que le ministère de l'enseignement supérieur a ouvert dans les zones non couvertes des annexes liées justement aux universités de ces régions,
oui.
Mais qui préparent exactement au métier d'enseignant. Et ces étudiants, ils sont dans des annexes comme s'ils étaient dans ces écoles normales supérieures.
En fait, c'est une décentralisation de la formation.
Voilà, c'est une décentralisation. Exactement, vous avez raison.
Est-ce que le nombre le volume des cours a augmenté pour les étudiants à l'ENS ou pas ?
Non, c'est le nombre d'années qui a augmenté.
Voilà.
Oui, c'est le nombre d'années. Enfin, avant, c'était 4-5, mais maintenant, on est à 5-6. Mmh. Bon, ce que l'on dit, en fait, c'est le nombre d'années a été déterminé en fonction des critères arrêtés par l'éducation nationale.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Hazallah, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et on vous recevait à l'occasion de la rentrée universitaire qui a commencé ce lundi. Et d'ailleurs, on souhaite une très bonne rentrée universitaire à tous les étudiants qui nous écoutent.
Merci beaucoup.